Handi Plus, une heure de programme consacrée aux différents handicaps. Le handicap moteur, sensoriel, auditif, visuel, le handicap psychique, le handicap mental ou intellectuel, ainsi que maladie invalidante que vous pouvez suivre tous les quatrièmes vendredis de chaque mois de 11h à midi. Bonjour, Alim avec vous. J'ai pour coutume d'annoncer des chiffres car nous trouvons à FM Plus qu'il est nécessaire de rappeler l'importance du handicap dans notre société. Il est une richesse pour tous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a bien évidemment toute sa place dans notre société. Alors oui, quelques chiffres, histoire de prendre conscience que la question, le sujet n'est pas à négliger, bien au contraire. Avant de passer aux chiffres, allez, un rappel de ce qu'est le handicap. Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non, menant à un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales, et ou physique. Le terme de handicap renvoie également aux difficultés de la personne en situation de handicap face à son environnement, que ce soit en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit autant d'une notion sociale que d'une notion médicale. Ces limitations d'activité et de participation restent variables selon les contextes nationaux ou sociétaux. Le handicap affecte 80 millions de personnes en Europe, 650 millions dans le monde entier, voire 1 milliard de personnes, selon le rapport mondial sur le handicap de l'OMS et de la Banque mondiale. En somme, la prévalence du handicap est estimée à 15% de la population mondiale. En France, selon l'INSEE, 9 600 000 personnes sont en situation de handicap, tout âge confondu, ça va des enfants aux adolescents, aux adultes, jusqu'aux personnes du troisième âge. J'estime que ces chiffres méritent amplement d'être communiqués pour interpeller tous ceux et celles qui sont en notre compagnie et se rendre compte ô combien la question du handicap est bien souvent mise de côté ou un manque de considération se fait ressentir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une pathologie, plus précisément à une affection neurologique, pouvant aller jusqu'aux convulsions, les détails dans un instant. Il s'agit de l'épilepsie. Qui frappe 40 millions de personnes atteintes par ce mal dans le monde. En France, environ 7 individus sur 1000 sont concernés et près de 30 000 personnes souffrent chaque année de crises épileptiques. Le nombre total des malades se situerait autour de 450 000, dont environ la moitié sont des jeunes de moins de 20 ans. On estime que 5% de la population peut à tout moment faire une crise. 40 000 personnes, soit près de 100 nouveaux cas par jour, c'est le nombre de nouveaux cas survenant chaque année en France. Nous allons tenter aujourd'hui d'en savoir un peu plus, au vu des chiffres que je viens de citer. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Sicre. Bonjour Bernard Sicre.
Bonjour monsieur.
Vous êtes délégué de l'association Épilepsie France dans l'Hérault.
En Languedoc-Roussillon.
En Languedoc-Roussillon. Et vous êtes également infirmier libéral.
Oui.
C'est devenu Épilepsie France depuis 2004. Si mes sources sont bonnes.
Oui, tout à fait. C'est la fusion des différentes associations pour enfants épileptiques et enfants et personnes adultes pour former le mot Épilepsie France.
Alors plus précisément, c'était l'association pour la recherche, pour l'éducation et l'insertion des jeunes épileptiques, l'ARPEJ,
oui.
En fait. Et il y a eu cette fusion avec le Bureau français de l'épilepsie.
Tout à fait, oui.
Très bien. Et donc, Épilepsie France est effective depuis le 1er janvier 2006. Elle dispose de l'agrément national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Alors, ma première question, Bernard Sicre, cette fusion de ces deux associations s'est faite en vue de pouvoir devenir plus efficace. À quel niveau? Au niveau de la prévention, en vue de rassembler un plus grand nombre de bénévoles, de pouvoir être plus sur le terrain?
Ben, il y a deux ambitions. D'abord, être reconnu au niveau des pouvoirs publics, parce que BFE et ARPEJ, bon, c'est difficile à déchiffrer. Bon, déjà, Épilepsie France, on sait c'est plus clair de quelle pathologie on parle. Et d'autre part aussi, c'est reconnu d'utilité publique donc depuis 2014. C'est pour aussi réunir une seule association de toutes les personnes touchées de la naissance à la personne âgée.
Très bien. Mais donc ce rassemblement, c'est en vue aussi d'accroître comme ça une certaine efficacité sur le plan national.
Oui, et puis du fait qu'aussi, comme c'est divisé par département et par région, d'avoir une harmonie dans nos actions au niveau des manifestations et à tous les niveaux.
Très bien. Parlons de l'épilepsie, plus précisément des causes. Je rappelle juste que c'est un symptôme neurologique causé par un dysfonctionnement.
C'est un dysfonctionnement au niveau des neurones qui provoque, des crises. Alors, il y a deux types de crises. Il faut définir dans le public, quand on parle de crise d'épilepsie, tout le monde pense à la personne qui est à terre, qui tombe par terre. Et ça représente que 30% des crises.
Combien de pourcents?
30%.
30%. Bon, c'est ce qu'on appelle le grand mal.
Oui, grand mal.
C'est la crise...
Grand mal ou crise généralisée.
Généralisée.
Et la crise partielle ou petit mal représente 60% des cas. Et c'est vraiment... Ça se passe souvent inaperçu. Ça peut être une crise qui dure quelques secondes et qui... et puis après, ou quelques minutes. Mais seulement, il y a trois phases dans l'épilepsie. La phase, disons, que la personne ressent, et la phase d'épilepsie par définition, la personne ne sent rien, elle est absente, et puis la phase de récupération qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes, voire des jours. Une crise généralisée, certaines personnes mettent des jours à récupérer d'une crise.
Et dans ce cas, elles sont hospitalisées, il faut un suivi particulier en cas de grand mal comme ça?
Tout dépend le... Oui, bien sûr.
Tout dépend le degré?
Tout dépend le degré. Si des personnes récupèrent, sont chez eux, encadrées, ils restent chez eux. Enfin, c'est au cas par cas. Il y a autant de formes d'épilepsie que d'épileptiques. C'est la particularité de cette pathologie. Mmh. D'où, disons, une prise en charge par un neurologue épileptologue, qui est un spécialiste de l'épilepsie. Parce que l'épilepsie se soigne pas comme ça, c'est pas un seul médicament unique, c'est en fonction du type d'épilepsie, il y a des traitements adaptés, mais qui ne marchent pas toujours. Donc il y a un tâtonnement de la part des spécialistes pour trouver le traitement adapté, et ce qui n'est pas toujours évident à trouver parce qu'il y a des épilepsies pharmacorésistantes.
Très bien. En vue de, justement, vous avez évoqué les crises partielles, donc les petites crises qui peuvent passer parfois inaperçues, mais qui sont les plus importantes, qui touchent le plus grand nombre de gens. La symptomatologie est extrêmement polyforme. Il peut y avoir de nombreux symptômes qui peuvent passer inaperçus. Ce sont lesquels?
Ben, disons, ça peut être les symptômes. Ils sont multiples, hein. Ils sont vraiment multiples parce que, par exemple, avant la crise, ça peut être au niveau de l'abdomen une sensation, au niveau de l'odorat aussi une sensation. C'est en fonction de la zone du cerveau touchée.
Donc, mais justement, ces crises qui sont partielles, qui peuvent passer inaperçues en vue du sujet justement qui va le ressentir, il peut y avoir des hallucinations. Des fois, on peut se dire, tiens, j'ai vu ça, voilà. Mais c'est un rapport avec l'épilepsie justement.
Oui. Voilà, là aussi, il faut faire la différence parce que justement, on veut former. Bon, on en parlera dans la seconde partie. C'est au niveau des enseignants, des personnes qui sont autour de la personne, qui peuvent définir un comportement spécifique. Hein. Parce que le médecin n'est jamais là quand il y a une crise partielle. Enfin, c'est rare.
Oui.
Hein. Et c'est les personnes de l'entourage qui peuvent dire, voilà, mon enfant ou mon compagnon ou autre
m'a fait part de telle et telle chose.
Non, à ce comportement de temps en temps. Et c'est à partir de là qu'on peut définir, dire au médecin, voilà, il a ces signes cliniques qui permettent de... Moi, je m'inquiète pour...
De faire un diagnostic plus juste, quoi.
Voilà. Parce que souvent, c'est les crises partielles. J'ai un souvenir d'un professeur de neurologie qui disait les enfants ont une scolarité, disons, difficile, tout simplement parce qu'ils font des crises partielles. Il suffirait que de faire le diagnostic, un petit comprimé, enfin un comprimé adapté, et ils pourraient avoir une scolarité normale.
Normal. Alors pour ces crises partielles, bon, on vient de citer donc parfois il peut y avoir comme ça d'une manière très furtive des hallucinations.
Oui.
Et il peut y avoir, bon, donc, comme vous avez dit, au niveau sensoriel, visuel, auditif, gustatif, et des vertiges également.
Oui, et des mouvements moteurs aussi, des mouvements des membres.
Des mouvements anormaux.
Oui, oui. Hein,
qui d'un coup, un bras va bouger alors qu'on voulait pas le...
C'est ça, c'est la difficulté de poser le diagnostic.
Des troubles de la sensibilité également? On peut ressentir qu'ils sont liés,
mais
c'est pareil quoi.
C'est difficile de.
Voilà, c'est pas parce qu'on va avoir un trouble de la sensibilité, de l'engourdissement, par exemple, qu'on va dire ça y est, c'est de l'épilepsie.
Mais oui, voilà, c'est ça le problème, la difficulté, c'est de faire le diagnostic.
La complexité, elle est là,
à partir de quelques comportements spécifiques. Hein. Mm-hmm. Ou atypique, c'est ça le problème.
Il peut y avoir également des troubles d'apparence psychiatrique, des fois qui peuvent arriver et comme ça d'une manière furtive et on peut se dire ah t'es...
Et oui, c'est voilà. Alors, il faut penser à l'épilepsie, mais il faut pas penser systématiquement à ça. Donc il faut faire la part des choses et c'est là la difficulté. Donc bien que avec en fonction des antécédents des personnes ou s'il y a des troubles depuis, enfin c'est des fois ça dure. On pose le diagnostic 20 ans après.
D'accord. Oui, parce que justement, elle est là, toute la complexité justement de pouvoir... À partir du moment où il n'y a pas eu le fameux grand mal.
Voilà. Alors des fois, tout simplement, il y a la crise généralisée et le grand mal. Donc à partir de là, on peut poser le diagnostic, mais des fois, ça n'arrive pas.
Très bien. Les personnes qui sont amenées à faire des crises partielles, plus précisément celles qui relèvent de l'alcoolisme aigu, parce que l'alcool également nourrit, alimente. Hein, des dégâts comme ça au niveau des neurones et peut entraîner comme ça des crises d'épilepsie. Alors il y a l'alcoolisme aigu et il y a celles ou ceux qui sont en plein sevrage aussi de cet alcoolisme qui peuvent comme ça donc manifester ce type de crise.
Mais là le diagnostic se fait, enfin on sait que la personne, disons il y a une altération des fonctions neurologiques, hein, donc les spécialistes y pensent. Enfin, et aussi c'est comme trauma crânien ou ceux qui ont eu des problèmes, des antécédents, on peut penser à l'épilepsie.
Il y a également la surconsommation médicamenteuse qui peut provoquer.
Mais tout, c'est ce que je vous disais. Il y a tellement de facteurs qui peuvent déclencher une crise. Chez l'enfant, une convulsion, c'est une crise d'épilepsie.
Oui, une forte fièvre peut entraîner donc des convulsions. Alors, et là, est-ce qu'on peut le lier à l'épilepsie?
Alors, pour définir...
Ça peut l'entraîner.
Une crise d'épilepsie est définie... Une personne est définie épileptique quand il y a eu deux crises d'épilepsie.
Deux.
Oui,
À partir de deux,
il faut les suivre, il faut un traitement.
Mais là, le diagnostic peut être posé, quoi.
Oui, peut être posé, quand on peut le poser.
D'accord, au bout de deux, comme vous venez de dire. Mais justement, là si j'ai voulu attirer donc votre attention sur l'alcoolisme, parce qu'il y a également la consommation de drogue qui peut entraîner donc des crises d'épilepsie. Pour la jeunesse qui sont là et qui sont... l'alcool n'est pas contrôlé, la vente d'alcool, donc on peut boire tant qu'on veut. Et cela donc est un danger quand même pour une jeunesse qui...
Mais tout à fait, là, de toute façon on le sait, c'est tout ce qui entraîne une altération des fonctions neurologiques peut provoquer des dégâts et entre autres l'épilepsie.
Et justement, au niveau de la prévention, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place auprès des lycéens, auprès des... Ce sont les futurs projets, les futurs chantiers peut-être que vous allez mettre en place?
C'est des futurs projets parce que, bon, moi depuis que je suis responsable dans le Languedoc, disons mon projet, notre projet, c'est de créer des centres pour personnes épileptiques, de créer aussi de la prévention parce que c'est le but de l'association. Mais seulement, bon, déjà il y a le problème, par exemple l'éducation nationale pour entrer dans les écoles, faire de l'information, c'est très difficile. Il y a un barrage administratif. Et puis...
Qui est lié à un manque de personnel peut-être, manque de disponibilité.
Mais déjà il faut prendre, l'épilepsie fait peur. Tout simplement, vous dites voilà, je veux donner des informations sur l'épilepsie, ça pourrait être accepté, mais non. Autant d'autres pathologies sont acceptées, enfin, l'information pour d'autres pathologies c'est accepté, et l'épilepsie non, parce que déjà, bon, aussi il faut organiser tout ça aussi, c'est toute une procédure pour organiser, pour informer, pour soutenir, enfin,
c'est créé comme ça. Une manifestation où on pourrait comme ça interpeller ou faire passer un message comme ça
voilà,
à cette jeunesse.
Parce que faut dire donc comme vous disiez au début, c'est la première maladie neurologique chez l'enfant et la deuxième chez l'adulte. La première chez l'adulte, c'est la migraine.
Alors 6 enfants sur 10 selon le traitement peuvent guérir, on peut dire, de l'épilepsie.
Oui. Ah oui, parce que alors dans 80% des cas pour les épileptiques, avec un traitement, on a une vie normale. Mmh. Et il y a 10-15% où ils sont pharmaco-résistants, d'où le problème du suivi
le
au
bon
quotidien, non, le quotidien aussi, mmh. La vie de l'enfant, la famille et autres. Mmh. Et ça, c'est un gros souci.
Et en matière de scolarité, justement, pour les enfants qui sont sujets à l'épilepsie, est-ce que l'entrée comme ça dans l'école publique elle se fait relativement normalement ou c'est assez compliqué ?
Ben c'est comme surtout l'épilepsie. C'est l'épilepsie depuis l'Antiquité. C'est une maladie qui est rejetée. Et c'est bon.
Surtout si on en revient aux symptômes qu'on a décrits tout à l'heure, des hallucinations. On peut entendre des voix parfois.
Oui.
Qui est liée à l'épilepsie. On peut sentir des odeurs. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, ben c'était des personnes qui étaient qualifiées de sorciers.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Et le diable,
le diable tombait
sur vous et puis on pouvait plus rien faire.
Et
ça continue encore. Et ça continue encore parce que quand on dit épilepsie, qu'est-ce que c'est? Le diable, ça continue. Quelqu'un est atteint d'épilepsie, ben, il est rejeté, tout simplement. Mmh. Alors, dans le milieu de l'éducation nationale, ben, les profs, soit ils sont ouverts au dialogue, soit aux informations des parents et du docteur et enfin des personnes médicaux.
Est-ce qu'ils ont les compétences aussi? Parce que bon, c'est vrai que quand on les forme pour devenir des professeurs, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là?
On aborde très peu l'épilepsie. Moi, je vois dans mon milieu. Enfin,
je parlais de handicap en général.
Oui, hein. Oui. Ouais.
Mais
moi, je suis intervenu récemment dans un IME où il y a beaucoup d'épileptiques parce que
IME qui est l'institut
médico-éducatif, mmh. Institut médico-éducatif. Et
ici à Montpellier?
Oui, il y en a un certain nombre dans toutes les villes et les régions. Et le souci, il y a beaucoup d'épilepsie parce que c'est des enfants qui ont une polypathologie neurologique, hein, ou uniquement épilepsie, et automatiquement il y a des épilepsies. Et c'était pour aussi informer les éducateurs spécialisés à quelle conduite à tenir devant une crise d'épilepsie.
Ah ben, oui, bon, ça on y reviendra en seconde partie. On va marquer une pause. Et on se retrouve dans un peu moins de 4 minutes. Je suis en présence de Bernard Sicre, délégué de Épilepsie France en Languedoc-Roussillon. Le Handipus, votre rendez-vous mensuel avec le handicap. On revient juste après ceci.
Outside to see, to show the world who
Vous êtes sur FM+, le 91 MHz à Montpellier et son agglomération, 103.1 du côté de Nîmes et de son agglomération via Radio Alliance Plus. Aujourd'hui dans le Handi+ du mois de novembre, je reçois Bernard Sicre, délégué de l'association Épilepsie France en Languedoc-Roussillon. Alors Bernard Sicre, quel type de diagnostic est effectué pour détecter si on est sujet ou pas à des crises partielles? Peut-on vraiment déceler si un jour la crise partielle peut basculer sur une crise complexe, le grand mal, comme on le surnomme?
Non, cette hypothèse, bon, on ne peut pas savoir comme ça. Mais c'est déjà, si on le décèle, on va voir un spécialiste. Et le diagnostic repose sur l'interrogatoire de la famille, de la personne épileptique. Mais la personne épileptique, par définition, quand il fait sa crise, il est absent. Donc, il ne sait pas quel signe clinique il effectue, quel signe il fait, s'il se débat, s'il bouge, s'il a des rictus au niveau du visage, enfin tout ça.
Au niveau du langage aussi, il peut y avoir un défaut de langage par moment qui peut survenir comme ça subitement.
Oui, voilà. Tout ça, c'est en fonction. Donc, c'est le spécialiste qui interrogera les personnes. Et en fonction de. Il y a cette première étape, puis après, il fait un électroencéphalogramme. Et puis après, bon, c'est lui qui décide en fonction
En fonction de la lecture qu'il aura, de l'examen qu'il aura fait.
De la conduite à tenir en fonction de ce qu'il faut. Bon, seul le médecin évalue et puis...
Les spécialistes donc qui...
Voilà, oui.
D'accord. Parlez-nous de votre association. Elle intervient en milieu hospitalier, n'est-ce pas?
Non, c'est au niveau de... Non, elle intervient dans le public,
mais en milieu hospitalier, elle n'intervient pas.
Non, alors au milieu hospitalier...
Il n'y a pas un accompagnement.
Si, c'est-à-dire les spécialistes, les neurologues ou les médecins donnent l'information qu'il existe une association pour cette pathologie.
En l'occurrence, la vôtre.
Oui. Et les médecins spécialistes nous aident aussi quand on fait des manifestations pour des conférences. En rapport avec l'épilepsie.
Alors, au sein de votre association, il y a une permanence téléphonique. Elle est à la disposition de tous. C'est une écoute, une oreille, ou c'est pour orienter, pour...
Mais le but de l'association, déjà, c'est d'informer, en fonction des appels, de conseiller, d'informer, et puis après, on fait des groupes de parole aussi, pour se réunir, pour conseiller les personnes qui sont justement par rapport à cette pathologie, les médecins ne peuvent pas tout faire, les spécialistes, ils font leur travail de médecin.
Et mais puis ils comptent sur des associations comme la vôtre
Pour expliquer ce que c'est, parce que quand on dit à quelqu'un t'es épileptique, oui ça y est, le monde lui tombe dessus, et la famille aussi peut le rejeter, ou en fait, il y a tout ce
oui,
qui...
C'est un chamboulement après.
Où on peut lui dire aussi, mais ça c'est rien, c'est une petite crise, enfin c'est une petite épilepsie qui se traite, mais seulement ça peut bouleverser quelqu'un.
Complètement, oui. Mais justement, alors vous répondez à toutes les demandes adressées par courrier postal ou par courrier électronique, quel type de demandes auxquelles justement vous répondez?
Mais c'est surtout ce que je viens de vous dire, c'est mon fils, ou je suis épileptique, ou enfin, ma fille, voilà, elle a une épilepsie résistante, est-ce qu'il y a des centres pour m'accueillir, enfin ça c'est le...
Il y a une permanence une permanence où vous accueillez des personnes à qui vous consacrez donc des entretiens, même physiquement, vous pouvez recevoir des personnes qui souhaiteraient avoir comme ça les renseignements directement, et surtout, en entretien, voire individuel avec la famille ou le sujet qui est touché.
Oui, tout à fait, oui.
Et cette permanence, vous recevez comme ça, c'est sur rendez-vous?
C'est sur rendez-vous, parce que, il y a eu un problème au niveau de la municipalité, la maison des associations a été fermée il y a quelques années, donc on reçoit sur rendez-vous.
D'accord, ici à Montpellier.
À Montpellier,
de toute façon, on donnera tous les coordonnées tout à l'heure. Des réunions périodiques au profit des adhérents a lieu, donc afin qu'ils puissent échanger entre eux, établir des liens, s'informer. C'est une façon de lutter contre l'isolement?
C'est un élément, ces réunions. Moi, je sais qu'on a les retours positifs parce que les personnes se sentent, disons, encadrées. Puis les propos tenus par des épileptiques, les gens comprennent ce que c'est une crise d'épilepsie. Enfin, et même un conjoint ou autre a du mal à saisir ce que c'est, ce qui se passe, le bouleversement, l'orage qu'il y a dans le cerveau de quelqu'un. Et puis le post-crise aussi. Parce que quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, il y a la crise, c'est après la crise, qu'est-ce qu'il se dit? Où je suis? Qu'est-ce que je fais? Et puis le regard d'autrui, le regard de la société vis-à-vis de ça.
Donc là c'est vraiment lutter contre l'isolement ces personnes qui peuvent se sentir complètement étrangères au monde extérieur au moment justement de ces crises, et comme vous avez dit, l'après-crise aussi.
Oui.
Il y a également l'organisation d'une journée rencontre nationale annuelle, alternativement à Paris et en province, au cours de laquelle se succèdent informations, témoignages, ateliers et tables rondes. Les ateliers sont conduits par des professionnels de santé. Quels sont ces types d'ateliers, et est-ce que c'est vraiment conduit par des professionnels de santé?
Vous parlez de l'association. Oui, au niveau de l'association, c'est les délégués qui se réunissent. Dans la délégation d'Épilepsie France, il y a des neurologues, il y a des bénévoles, mais des gens qui sont compétents pour ou bien des personnes épileptiques aussi qui s'investissent là-dedans, et il y a tout public.
Oui, mais justement, il y a des témoignages, des ateliers, des tables rondes, mais quel type d'atelier?
Des ateliers sur un sujet donné, sur un sujet choisi, une épilepsie particulière.
Où là, on va traiter, on va détailler, donner toutes les informations qui sont à la connaissance.
À ce propos, justement, au mois de mars, il va se dérouler les journées interrégionales de l'épilepsie dans toutes les délégations du sud de la France à Montpellier.
Ah, très bien.
J'ai pas la date officielle, mais c'est...
On y reviendra de toute façon.
Mais ça, c'est uniquement les délégués qui se réunissent tout un week-end, le samedi, dimanche, c'est à définir.
En vue de projeter de futurs travaux, de futurs chantiers, des décisions
il y a ça, et puis aussi il faut savoir que sur la Méditerranée, de la frontière italienne à la frontière espagnole, il n'y a pas un seul centre pour l'épilepsie.
Dans le sud.
Toute la Méditerranée, il n'y a rien. Il y a très peu de centres pour épileptiques. Il y a la TEP du côté de Valence. Puis après, du côté de Toulouse, il y a un grand centre pour enfants. Et puis après, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment c'est le vide.
Mais justement, vous avez développé des partenariats dans l'Europe, en l'occurrence avec une association allemande, en Allemagne. Quelles sont les avancées en Allemagne, s'il y en a, bien sûr, comparées à celles d'ici, de chez nous?
Les avancées, en fait, il faut savoir que les épileptologues, c'est une spécialité dans la neurologie. Ils travaillent tous en réseau nationaux et internationaux. Donc, ça, quand il y a une avancée, disons, c'est diffusé. Disons, les spécialistes en tirent profit aussi.
D'accord. Non, mais je voulais dire surtout au niveau de... Là, avec ce partenariat que vous avez donc avec cette structure allemande, est-ce que eux, au niveau de leur structure, ils sont mieux outillés, on va dire, ou pas, ou c'est comme ici, où on n'a pas les envier.
C'est sensiblement pareil.
Oui. Vous distribuez également de la documentation complète sur tous les aspects de la vie de la personne épileptique, sur l'épilepsie en général également, et l'association sous forme de dépliants thématiques. Comment peut-on se procurer cette documentation? Il suffit de passer un coup de fil, envoyer un mail?
Oui, voilà, nous contacter déjà au niveau départemental et régional, et on diffuse l'information, et puis on peut aussi donner des compléments d'information par les brochures.
Très bien. En termes d'emploi, il y a des emplois auxquels les personnes épileptiques ne peuvent pas accéder.
Oui, alors, il y a le bon sens d'abord qui parle, à savoir il y a des emplois dangereux, comme travailler sur les chantiers, il y a pilote d'avion, ça paraît...
Oui, chauffeur routier.
Chauffeur routier, il y a tout un tas de travail, mais c'est travailler sur des bateaux, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Mais ça, c'est le bon sens. Après, tout peut se faire. Il faut dire aussi, il y a beaucoup de personnes épileptiques qui ont des fonctions normales qui n'ont pas de soucis. Il faut voir les antécédents, les grandes personnes connues.
C'était quelques noms,
César, Flaubert, Dostoïevski, Alfred Nobel, Charlie Chaplin était épileptique.
Je savais pas.
Entre autres, il y en a Molière aussi est épileptique.
Bon, eh bien on en apprend.
Voilà, donc vous voyez, on peut faire des... ça inhibe pas les fonctions, mais seulement c'est le regard de la société qui empêche l'évolution de certaines personnes.
Et, alors, pour en rester toujours dans le domaine de l'emploi, en matière d'insertion professionnelle, où en est-on? Il y a au niveau du Cap Emploi, par exemple, qui est le Pôle Emploi, donc des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place?
Il y a des carences à ce niveau parce que soit la personne est équilibrée, a une épilepsie, elle ne le dit pas.
Elle ne le dit pas, donc elle postule comme ça. Elle sait sur quel type de poste elle peut postuler, donc elle y va sans passer par des structures.
Oui, voilà. Alors, il faut en fonction, soit si elle est toujours équilibrée, ça tient, soit si on découvre son épilepsie, elle se cache. Elle se cache ou elle est couverte par ses supérieurs et autres. Ce que j'ai constaté autour de moi. Les personnes, quand on parle d'épilepsie, dans n'importe quelle société, ah oui, moi aussi je le suis, en fait ceci, cela.
D'accord.
C'est incroyable le nombre de personnes qui se cachent dans la vie de tous les
jours. Et qui n'osent pas en parler.
Voilà.
On a parlé donc de travail, on a parlé donc de votre association, on va continuer d'ailleurs à en parler. On a parlé également de différentes, donc au niveau de la pathologie elle-même. Épilepsie France agit également, anime un service d'information aux usagers sur les centres de vacances. Oui. Alors, c'est pour les enfants, les adolescents?
C'est surtout enfants, adolescents.
Et qui peuvent s'y rendre donc dans des centres de vacances adaptés?
Oui, voilà.
Ils peuvent s'y rendre avec leur famille, leurs parents?
Surtout, il y a une prise en charge des enfants.
D'accord.
Bon, tout dépend du type d'épilepsie, bien sûr, parce que l'épilepsie pharmacorésistante, ça c'est autre chose, mais il faut voir, c'est au cas par cas. Là, il faut étudier, on ne peut pas donner des généralités au micro, ça c'est...
C'est en fonction des dossiers, mais
c'est en fonction des dossiers, puis et des places aussi disponibles.
Très bien. Ces centres de vacances, justement, il y en a beaucoup en France?
Non,
il y a... ça se passe à l'extérieur, donc dans d'autres pays, ou peut-être en Allemagne, comme vous avez un partenariat.
C'est en corrélation aussi avec le manque de centres pour épileptiques. Je sais qu'il y en a dans les Pyrénées-Orientales, il y en a, mais c'est limité, tout simplement.
C'est limité, donc on en est au balbutiement, on va
voilà,
dire.
Voilà, oui.
Mais bon, il y a quand même des choses qui se font.
Oui.
Hein, on va pas regarder. Forcément, le verre à moitié vide.
Oui, non, mais il faut être positif. Mais
exactement, donc ça reste quand même des avancées. Mmh. Et c'est bien qu'il y ait des centres comme ça pour... les demandes sont nombreuses pour... Il y a des démarches quand même qui sont faites de la part de certaines familles, de certains parents.
Non, j'ai pas trop de demandes dans la région.
Ils sont assez... Ou peut-être qu'ils sont encore timides, ils osent pas trop peut-être.
Ou ils se débrouillent tout simplement.
D'accord, ils préfèrent se dire, bon, on va quand même partir en vacances tous ensemble et...
Ils se débrouillent.
Ne pas isoler l'enfant peut-être.
Voilà, ils se débrouillent en couple, ils essaient de trouver une solution adaptée au problème de leur enfant. Et ça, c'est pas évident, mais des fois, on y arrive. Hein.
Des événements, des manifestations donc, sont prévues en 2015. Là, tout à l'heure, vous m'avez parlé du fameux week-end au mois de mars, mais c'est uniquement les délégués qui vont se réunir. Mais est-ce qu'il y a des manifestations ou des événements qui pourraient être prévus au courant de l'année 2015?
On fait des concerts aussi au profit de l'association Épilepsie France. Il y a la comédie de la santé organisée par la mairie de Montpellier. Mmh. Puis aussi, on fait des réunions d'information au grand public avec la participation d'un épileptologue. Mmh. Moi, j'essaie d'ouvrir... j'ai eu une demande hier en Lozère, mais là aussi, la Lozère est en demande parce qu'il y a beaucoup de centres pour handicapés, dont automatiquement des épileptiques. Dans tous les départements, il y a des demandes. Donc c'est difficile aussi d'organiser. Le seul souci aussi, c'est que notre association, il y a une carence en bénévoles.
Il vous manque des bénévoles. Et donc là, on peut lancer un appel.
À fait, oui.
Donc vous êtes à la recherche de bénévoles, de personnes qui voudraient bien comme ça
s'investir,
donner de leur temps pour Épilepsie France. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on veut apporter comme ça?
Me joindre au numéro que vous allez donner.
Très bien, donc le site internet qui est
Épilepsie France, Non,
ça c'est l'adresse mail, attention.
Oui, pardon. Le site internet c'est Épilepsie France.
Épilepsie France, on tombe de suite sur le site. Et donc, ne pas hésiter à vous contacter pour toutes les personnes qui souhaiteraient comme ça apporter un coup de main.
Ben oui, parce que les gens sont en demande, et puis de toute façon, il y a beaucoup de demandes, et beaucoup aussi de personnes à travers cette émission peuvent aussi m'appeler, parce que ils n'osent pas le dire.
Parce qu'il y a beaucoup à faire encore.
Ah ben oui, parce que cette maladie neurologique véhicule souvent des images erronées qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pour ça le but aussi de notre association, c'est de rétablir la vérité, de dire mais non, c'est pas ça ce que vous pensez, c'est pas la personne qui est par terre, ça peut être de multiples choses. Puis la personne peut s'intégrer, elle peut avoir une vie normale, elle a une vie normale. Enfin, il y a tous les cas de figure. C'est pas que les 10%, 10-15% de gens malheureusement qui sont pharmacorésistants.
Et là, on n'arrive pas vraiment à trouver le traitement adéquat.
Oui, non, mais voilà. Mais
ce chiffre, voilà, c'est pas la majorité, c'est que 10%, comme vous venez de dire.
On veut démystifier cette pathologie, mais là, il y a beaucoup à faire. Et de toute façon, il faut être optimiste. Aussi, moi, au niveau je vous parlais des centres pour épileptiques et autres. On a un projet, on veut carrément, s'appuyer, faire une demande d'investisseurs privés. Parce que je crois qu'avec les politiques, quelles qu'ils soient, de toute façon, il n'y a pas de clivage politique, droite ou gauche, ou ce qu'on veut. Il faut des investisseurs privés pour finaliser un projet.
Et développer un peu plus, quoi.
Et on a des idées, là, j'espère approfondir en 2015 et finaliser avec une personne qui a un enfant autiste aussi. Et elle me dit, mais il faut rassembler toutes ces maladies. Parce que quand on parle la semaine dernière, c'était la semaine du handicap. Et quand on parle d'handicap, les personnes, les trois quarts des gens, voient l'handicap visible.
Exactement. Enfin, disons qu'on a tendance à réduire le handicap à la caricature. Donc c'est le fauteuil roulant et la canne blanche, alors qu'il y a tout un tas de handicaps non visible. Et c'est vrai que c'est là où se trouve après la difficulté pour tout un chacun de pouvoir comprendre et se dire mais je le vois marcher normalement, il s'exprime normalement, mais je vois pas où est le handicap.
Oui, voilà.
Et c'est là où est toute la difficulté après.
Parce que ça représente le handicap visible, 30% des handicapés en France.
Et donc ceux qui ont un ou plusieurs handicaps, parce qu'il y en a qui ont plusieurs handicaps non visibles, là le chiffre est beaucoup plus important.
Mais c'est ça le problème. Hein. Mais là, bon, c'est une démarche politique et démarche aussi de la société qui doit aller dans ce sens.
Et c'est le but aussi du Vendée Plus à FM Plus, de pouvoir comme ça.
J'apprécie votre émission parce que c'est vraiment le...
Mais, merci. Un dernier mot, donc
Je donne mes coordonnées, si vous voulez, de l'association.
Alors, on peut vous appeler au
04 67 07 55 51.
Très bien. Donc, on appelle à ce numéro, on tombe donc sur la permanence de l'association.
Oui.
Et là, vous pourrez donner donc tous les renseignements possibles concernant donc l'épilepsie, concernant également pour ceux qui voudraient donner de leur temps, qui peuvent donner de leur temps donc, et s'investir, des bénévoles. Et puis, les orienter également pour ceux qui ont besoin d'être orientés.
Ah mais je vous dis, il y a 30 000 nouveaux cas par an, il y a plus de 500 000...
Je l'évoquais, oui.
Près de 500 000 épileptiques en France, avec différents degrés, à différents degrés. Et vraiment, là, il y a beaucoup à faire.
Complètement.
Et en Languedoc-Roussillon, on est une quinzaine, 20 bénévoles, et encore, c'est vraiment difficile.
C'est encore peu.
Oui.
Mais bon...
Il faut être optimiste.
Oui,
des émissions comme la vôtre ou d'autres radios, c'est ce qui nous permettra d'avancer.
Exactement. Ben Bernard Sicre, merci de nous avoir éclairé sur l'épilepsie et sur votre association. Et pour toute personne donc qui souhaiterait contacter votre permanence, qui n'hésite pas. Merci.
Merci, monsieur.
C'était le Handi Plus de ce mois de novembre. Prochain numéro, ce sera en janvier 2015. Le fin mot de la fin est le suivant. Les 5 sens des personnes en situation de handicap sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre, bien au-delà de la volonté. Plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. Signé Grand Corps Malade. Bye bye.